La grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30.
Voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi-quotidienne de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien à bord de l'Optimiste qui vous amène en navigation autour de l'actualité locale. Aujourd'hui, notre cher voilier enfile ses lunettes de lecture. On parlera des livres capables de nous changer la vie avec Enora, qui nous raconte dans sa chronique son rapport à la lecture. Et sur cette même vague, on reçoit Andrea Lemaire, gérant de la librairie Café Galerie Myriagone dans le centre-ville d'Angers, qui nous parlera des librairies indépendantes aujourd'hui. Et qui dit livre dit aussi poésie. On vous propose alors la lecture d'un poème enregistré par notre association partenaire Éclat. Et si la littérature nous fait du bien, n'oublions pas que l'art aussi a ses bienfaits sur notre vie. C'est ce qui nous raconte Anne-Lise dans la capsule positive à retrouver en fin d'émission. Voilà, on est paré dans la cale avec nos bouquins, alors aidez-nous à hisser la voile pour ce voyage littéraire et artistique. Enora et Andrea, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bienvenue donc à bord de l'Optimiste et comme on l'a dit, on va parler des librairies indépendantes avec toi Andrea par rapport à la situation de la librairie Myriagone. Mais Enora, on va commencer avec toi. C'est la dernière de tes chroniques littéraires sur cette onde. Alors bonsoir déjà.
Bonsoir.
Alors pour conclure en beauté, tu voulais nous parler aujourd'hui de ton rapport à la lecture.
J'ai longtemps pensé que les mots étaient mon premier amour. Je le pense toujours. Voilà, c'est bon, on sort les violons pour la dernière chronique littéraire, mais pas complètement en fait. Pour être honnête, je fais partie de ces personnes que la lecture a sauvées. Prenez-moi au pied de la lettre ou non, appréciez ce jeu de mots finement trouvé ou non, moi, je vous le dis, la lecture m'a sauvée. Pour vous donner un peu de contexte, à mes 9-10 ans, je ne jurais que par L'Arc-en-Ciel Magique, par Daisy Meadow. Une série illustrée et pailletée où chaque tome raconte l'aventure de deux hymens à la rescousse des fées. Ma mère n'en pouvait plus que je les lise en moins de 3 jours, et c'est elle qui a insisté pour m'acheter des gros livres. C'est là que tout a vraiment commencé. Sur les 2,5 étagères du rayon culturel d'un petit Leclerc breton, j'ai découvert ma porte de sortie vers un autre monde, loin de ma réalité, de mes problèmes, de mes complexes, de l'école, de ma famille, de mes angoisses, une porte de sortie de 400 pages et 13 tomes où je n'avais plus à être moi-même. Tara Duncan. J'ai dévoré cette série plus vite que les chocolats de Pâques. Tara Duncan, c'est ma Harry Potter. Avec elle, j'ai embarqué sur une planète de sorceliers, j'ai eu des amis trolls et elfes, j'ai visité le monde des morts, et j'ai aussi rencontré l'incroyable maître dragon Chemnachao Virunatrachivu. En gros, c'est comme le supercalifragilisticexpialidocious de Mary Poppins, mais version fantasy française. Si personne ne m'arrête, sachez très vite que je pourrais continuer à vous énoncer des romans qui m'ont façonné pendant des plombes. J'en ai encore une petite centaine en réserve dans ma bibliothèque, et pas pour le simple plaisir de vous noyer sous les titres, plutôt pour l'amour de partager des univers qui m'ont transporté. À mes yeux, la lecture est le plus beau réseau social. Certes, lire est une activité solitaire, mais quelle est la meilleure connexion que celle qui se crée à force de parler bouquins ? S'il m'est si cher de partager mes lectures sur cette antenne, c'est car j'espère allumer ne serait-ce qu'une petite étoile dans les yeux d'un auditeur ou d'une auditrice. Si j'arrive ça, j'ai tout gagné. Je sais bien, on voit souvent la lecture comme un passe-temps de bon élève et un truc laborieux, mais s'il vous plaît, de tout mon cœur, c'est faux, lisez. Que ce soit des romans, BD, mangas, formats illustrés, des essais, ou au niveau des genres de la non-fiction, du polar, de la fantasy, de la science-fiction, de l'histoire, des romances de Noël, il n'y a pas de grande ou de petite lecture. Ce n'est pas Émile Zola d'un côté, Virginie Grimaldi de l'autre. Le monde du livre est si vaste que tout le monde peut s'y retrouver. Ma dernière résolution est d'embrasser cette diversité, et me voici plongée corps et âme dans les BD, les romans d'auteurs et d'autrices non occidentaux, et les essais féministes. Quitte à ne pas pouvoir tout lire, autant le faire à fond. Auditeurs et auditrices, merci de m'avoir écouté parler bouquins ces derniers mois, et surtout, celles et ceux qui l'ont permis, à savoir merci Daisy Meadow, Merci Sophie Andouin Mamikonian. Mille merci John Green et Jules Verne, Delphine de Vigan, Sorge Chalandon, Yaka Hanam, Yamen Manaï, Rose Lamy. Merci à tous ces auteurs et toutes ces autrices qui m'ont permis de garder la tête hors de l'eau. Après plus de 10 ans, la lecture n'est plus pour moi une passion, elle est une nécessité.
Merci Enora pour cette chronique émouvante. Alors, pour enchaîner avec notre invité, on a vu, Andrea, que pour Enora, la lecture est une forme de partage, est une forme aussi de liberté. Et vous écrivez aussi dans un dernier post de la librairie Myriagone sur les réseaux que l'une des missions de Myriagone, c'est de rappeler que les livres sont des outils d'émancipation. Alors, pourquoi pour toi, comment, par exemple, toi, tu t'es émancipée grâce à la lecture ?
Oula, vaste question. Comment, je sais pas, je pense que justement le comment, c'est les livres et la lecture qui est le vecteur en fait. Après, c'est des coups de chance d'être né à peu près au bon endroit et d'avoir accès, déjà d'avoir la chance d'avoir accès aux livres et de ne pas avoir peur d'y aller, d'avoir les moyens financiers et culturels pour lire et d'avoir derrière un confort familial qui me porte à être curieux et me permet de lire ce que je veux quand je veux et voilà je pense que c'est tout est là aussi quand même, il faut jamais l'oublier et c'est pour ça que je fais très attention. Enfin, la lecture c'est important, mais il y a plein de façons de lire en fait. Il y a des gens qui passent leur vie à lire et qui restent pardonnez-moi l'expression, mais cons comme des balais. Il y a des gens qui liront jamais un livre, mais qui ont une intelligence du monde, qui savent en fait lire dans les gens, qui savent lire dans l'environnement. Voilà, lire, c'est aller en dessous aussi des choses. C'est-à-dire qu'on peut lire des mots, des phrases qui sont assemblées, mais ne comprendre que le sens premier et pas comprendre qu'il y a en dessous des choses beaucoup plus profondes en fait. Il y a ce qu'on appelle lire entre les lignes, et c'est là que la littérature notamment, ou même la BD, importe, toutes les formes d'écriture deviennent intéressantes. C'est pas juste coucher un scénario, c'est la façon d'agencer le texte qui après joue. Bon bref, en tout cas, mon émancipation justement elle s'est faite à ces moments-là, dans la découverte de ce que c'était, et à chaque fois c'était des moments où je me faisais dessiller, quoi. Où je comprenais pas tout à fait tout de suite sur le moment ce que j'avais lu, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de profond en moi qui était ébranlé.
C'est très beau ces idées de lire de monde que tu décris. Et d'ailleurs, ça fait écho aussi au nom de ta librairie, donc Myriagone, qu'on a appris aujourd'hui. C'est un polygone à 10 000 côtés qui peut paraître un cercle parfait si on le regarde de loin. Et tout comme la page d'un livre... qui est bidimensionnelle, en fait, elle est capable de nous faire découvrir des milliers de facettes de la réalité si on prend le temps de la lire et de l'observer de plus près. Donc, c'est une idée de pluralité qui soutient à la librairie Café Galerie Myriagone, qui, je le rappelle, se situe au 16 rue Bodinier à Angers. Donc, c'est une librairie indépendante qui, depuis quelques mois, a des difficultés. Et vous avez dénoncé justement avec un post sur vos réseaux sociaux que vous risquez aussi de fermer. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, on revient un peu au jeu, à ton expérience. Comment tu as eu le souhait d'ouvrir cet espace, cette librairie ?
C'est quelque chose qui s'est fait naturellement, en fait, avec les différentes expériences professionnelles que j'ai eues. Oui, c'est venu assez naturellement en fait. J'ai toujours été lecteur, mais pas avec aussi des moments d'absence, des moments où j'ai moins lu qu'à d'autres. J'ai d'abord été lecteur bizarrement de livres d'art quand j'étais tout petit. J'ai développé une passion pour certains courants artistiques, donc j'ai d'abord eu des livres de peinture, etc. Puis après, voilà, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir vers mes 9-10 ans déjà accès à des œuvres qui m'ont marqué, l'univers de H.G. Wells notamment, et puis Orwell vers 13-14 ans, enfin bon, bref. Et puis ensuite, on avance et il y a d'autres choses qui s'ouvrent. J'ai perdu le fil de ce que tu me
disais. Oui, comment, pourquoi tu as voulu ouvrir cette librairie?
Oui, et donc voilà, et simplement, ça a toujours été dans mon univers, en fait. La lecture a toujours été là, sans que ce soit forcément tout le temps central, mais voilà, c'est pour ça que je parle d'outils. C'est que c'était là, et j'ai fait des études d'histoire de l'art, j'ai fait de la médiation culturelle, J'ai fini par faire un stage en librairie sur la fin de mes études. Et puis voilà, la vie m'a emmené, je suis parti à Bruxelles, j'étais libraire là-bas. J'ai pas fait de formation de libraire, mais par contre, on va dire que la vie m'a emmené avec les différentes formations que j'ai faites vers le livre. Ça, c'est, et donc le projet Myriagone s'est construit comme ça. J'avais une librairie et une galerie et un café, parce que c'est trois expériences, trois professions que j'ai exercées en fait.
Et donc, comme on le disait au début, dans un post récent sur vos réseaux, vous dénoncez le risque que Myriagone puisse mettre la clé sur la porte. Il y a plusieurs raisons, les crises économiques, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi par exemple des travaux tout simplement à Angers. Le rythme de fréquentation, comme vous le dites, est assez faible en ce moment.
Oui, c'est ça. Après, c'est ce que j'écris, c'est ce que j'ai essayé d'écrire très simplement dans le message, mais il y a toutes les raisons en ce moment, vu les temps qu'on traverse, et en même temps aucune. C'est-à-dire que on peut toujours essayer de se creuser la tête et essayer de trouver des raisons. Oui, elles sont extrêmement nombreuses. Les gens n'ont plus la tête, à que ce soit à la lecture ou même ne serait-ce qu'à se déplacer. Enfin, il y a une espèce de repli général qui est observé dans la société. Et donc voilà, et ce qui fait qu'en tout cas dans les centres-villes, et notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, les librairies au niveau national sont en perte d'activité, en gros ralentissement. Et moi, c'est des choses que j'avais observées dans ma librairie depuis un peu plus tôt, depuis plutôt 2021. Mais ça s'est accéléré en 2022 depuis le début de la guerre en Ukraine. Et encore une fois, c'est parce que j'ai écrit ce message sur les réseaux pour prévenir les gens qu'il y avait un péril, que la librairie était en péril, mais c'était certainement pas pour les culpabiliser. Et parce que je comprends très bien, justement, moi-même, hein, je suis dans la société, donc j'ai des problèmes. Enfin voilà, financièrement, c'est plus dur. On a des inquiétudes, on voit le monde qui s'effondre de toutes parts. Et je pense que c'est... La lecture, c'est ce qu'elle impose, et notamment c'est ce que je demande le plus fort dans ma librairie aux gens qui rentrent, c'est juste d'être curieux. Sauf que la curiosité, dans ces temps qu'on traverse, elle est émoussée. On passe déjà tellement de temps à être inquiet et à essayer de déconstruire tout un tas de choses que du coup c'est difficile pour un moment de plaisir, on va dire, aller chercher un livre. C'est difficile de se retrouver de nouveau face à un ou une libraire qui vous dit bah oui, ici vous allez arriver, vous connaîtrez pas forcément les références, il va falloir aussi avec nous déconstruire un peu les choses, quoi. Vous ne serez pas dans une forme d'automatisme de consommation sur lesquels le capitalisme essaie de vous mettre en permanence. Et donc, il n'y a pas de repos. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de plaisir, mais il n'y a pas de repos. Et je pense que c'est ça, c'est une espèce de grosse crise qu'on traverse ensemble. Et c'est, moi, c'est ce que je constate dans ma librairie, mais on le constate dans plein d'autres endroits aussi. Hein.
Pourtant, pendant le confinement, par exemple, le secteur du livre avait bénéficié d'aide et la demande aussi avait un peu augmenté.
Oui, explosé
donc,
même.
Ouais. Donc c'est un élan en fait qui s'est un peu essoufflé après.
Oui, exact. Bah, oui, en fait, de manière logique, c'est-à-dire que en 2020, donc début du confinement, on n'avait pas d'horizon. On pensait que ça allait terminer, qu'on allait être confiné pendant 2 mois, ça allait pas être facile, mais que toute la vie comme avant, comme on disait, allait reprendre. Finalement, tout s'est compliqué, tout s'est étiré. On s'est retrouvé étouffé, les rapports sociaux entre les gens, tout s'est déconstruit justement. Et du coup, le monde d'après, il est bien encore plus noir et plus complexe que ce à quoi on s'attendait. C'était déjà pas glorieux avant. À ça, on ajoute des élections qui sont pas hyper excitantes. C'est un euphémisme. Des résultats qui font peur. On ajoute une guerre en Europe, on ajoute, enfin voilà, tout ce qui se passe en ce moment, je pense, encore une fois, émousse la curiosité, la disponibilité d'esprit, le temps qu'on peut consacrer au fait de lire, mais à plein d'autres choses aussi, quoi, l'espèce de propension à aller vers l'autre, voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas du coup aussi une sorte de refuge que je pourrais trouver paradoxalement dans les livres ?
Alors moi je suis assez opposé à cette notion de refuge parce que si, enfin personnellement en tout cas, je trouve que si on lit c'est non pas pour se mettre dans une bulle et ne penser à rien, même, et pourtant même en prenant du plaisir, hein, on peut très bien rigoler, mais si on la lecture, c'est justement, ça nous rend d'autant plus connectés et conscients du monde. C'est pour ça que je parle d'outils d'émancipation. Donc c'est pas forcément en tout cas à mes yeux une valeur refuge, mais en revanche je trouve que ça fait du bien, notamment dans des moments de crise, de sentir que justement on a d'autant plus une prise sur le monde qu'on s'en saisit en fait, plus on lit, plus on se saisit des choses. Parce que c'est du savoir, quelle que soit sa forme, c'est du savoir, c'est des expériences, des tentatives qui sont dans les livres et qui sont figées. Donc on y en plus aspirine pas, on y accède quand on veut. Et donc moi je sais que j'ai, et comme d'autres gens, j'ai ce réflexe-là plutôt de me dire dans des moments où un peu d'inquiétude d'aller là-dedans. Mais encore une fois, la société contemporaine, le système tel qu'il est fixé, nous conduit complètement vers l'inverse, en fait, en disant non, surtout ne pensez à rien. Soyez bien vite, soyez bien creux, faites bien ce qu'on vous dit, soyez bien là où on attend que vous soyez.
Et en fait, dans votre poste, vous dites aussi que malgré ces difficultés, vous remettez pas en question en fait votre choix d'indépendance, par exemple, ou le fait de sélectionner très précisément les ouvrages que vous mettez en vente. Donc c'est un peu aussi un risque en fait de renoncer par exemple aux grandes sorties et de rester sur des maisons d'édition moins connues.
C'est un risque économique si on est tout seul à prêcher dans le désert, je dirais, mais ça dépend où on met les risques. Moi je fais passer d'abord mon éthique et le monde dans lequel je crois et ce que je veux voir advenir avant l'argent, en fait. J'ai été éduqué comme ça, ça me semble être primordial. Et j'ai fait ce métier pour, justement, tu parlais de passion tout à l'heure, j'ai fait ce métier par passion du partage, en fait. Moi, j'adore découvrir des choses qui me font prendre compte. Enfin, voilà, je sais pas, il y a un truc, le cerveau, quand on a l'impression d'avoir le cerveau explosé par une espèce de lecture qui nous a retourné complètement. D'abord, il y a un plaisir immense à se dire « je vais me coucher moins bête ce soir, en fait. » Il y a une expérience supplémentaire qui a été vécue. Mais après, c'est quand même de la partager et de... Bon, tant pis, si je suis tout seul et ça sera incorporé. Mais après, c'est cette espèce de partage, la façon de lier les uns aux autres qui est important. Et je ne me vois pas faire ce métier en vendant des trucs dont j'ai rien à faire. En fait, la base est là, quoi. Peut-être que c'est plus risqué, mais en fait, c'est quoi le risque? Le risque, c'est que je m'emmerde tous les jours de ma vie à vendre des trucs dont j'ai rien à faire. Bah, autant que j'aille vendre des cigarettes électroniques, quoi. Au moins, ça marchera mieux. Mais par contre, en fait, c'est ça, le risque. Sinon, c'est de voir advenir un monde dans lequel on ne croit pas. Et en fait, c'est moi, c'est à chaque fois, c'est là que je reviens. On me dit, ouais, t'es courageux de faire ce que tu fais. Mais non, mais en fait, pour moi, le courage, ça serait de me lever tous les jours en ne comprenant pas pourquoi je me lève et ce que je fais, en fait. À un moment, mettons tous et toutes de l'éthique et nos convictions au premier plan dans chacun de nos métiers, et peut-être qu'on pourra commencer à se saisir un peu du monde qui nous échappe, quoi. Voilà. Et moi, je fais mon truc dans mon coin avec humilité, en sachant que j'ai tout le temps de continuer de progresser, mais voilà, c'est juste mettre un peu d'envie, de passion et se respecter soi-même, en fait.
Et d'ailleurs, un autre aspect particulier de Myriagone, c'est que, comme un polygone, en fait, elle est pas seulement une librairie, elle est aussi un café et une galerie. Et donc c'est un lieu culturel et c'est un espace qui, par sa nature, en fait, s'oppose à la logique des grands centres commerciaux où on vient pour faire nos achats, y compris des livres, le plus rapidement possible. Donc tu parlais tout à l'heure de capitalisme. Ça aussi, c'est une critique au capitalisme et c'est une invitation aussi à repenser notre manière de consommer.
Alors, peut-être pas forcément en soi, parce que quand on regarde la FNAC, ils vendent de tout aussi. C'est juste que dans mon lieu qui est petit, alors je favorise une forme de transdisciplinarité, en fait, ça c'est quelque chose de très important pour moi, et faire en sorte qu'il y ait une capillarité entre les différentes pratiques artistiques, parce que c'est aussi par les choses, mais toujours en respectant mon identité, en fait. Je vais pas n'importe où, c'est des choses, je vais vers les choses qui me parlent et puis vers lesquelles j'ai des compétences aussi. Et puis après, voilà, j'ai fait en sorte, par contre, en effet, de ralentir l'acte d'achat quasiment. Donc là, mon banquier m'écouterait et il me dirait, mais vous êtes fou. Mais c'était ça, en effet, c'était rendre hommage à ce que je vends, c'est-à-dire de la pensée, hein, quand même prise, imprimée sur des pages, en disant, on va peut-être pas y aller de manière compulsive et prenons le temps. Et donc j'ai mis en place des systèmes un peu pour ralentir, c'est-à-dire que je n'ai pas mis, il n'y a pas d'étiquetage. Donc déjà on ne sait pas exactement, les premières fois où on vient, on ne sait pas exactement où se trouvent les choses. On a cassé avec l'architecte qui a conçu le mobilier. On n'a pas de longs linéaires horizontaux, mais c'est plein de petits modules qui sont désaxés les uns des autres. Donc ça permet aussi de ralentir et de plus trop savoir bien où on met les pieds. Après, pour les habitués, on finit toujours par s'y retrouver. Mais voilà, il y avait tout un tas de choses. Il y en a plein d'autres qui ont été mis en place pour ça. Mais je pense pas que ce soit le fait même de proposer de faire galerie, café et librairie en soi qui ralentissent et qui sont, on va dire, à l'inverse de la marche. C'est plutôt la façon dont on assume et jusqu'où on va dans ce processus, en fait.
Et donc, tout à l'heure, tu parlais aussi de la chance que tu as eue de grandir dans un milieu qui invite justement à la lecture et à l'ouverture culturelle. Je te pose à mon tour la question, comment inviter donc le public à revenir en librairie et même des nouveaux publics peut-être moins habitués à la lecture?
Ah, c'est une grande question en fait. Il faudrait avoir des politiques d'éducation, au niveau de l'éducation nationale, qui soient complètement refondues, repensées. Il y aurait du boulot. Mais bon, après, pour mon poste à moi, c'est pour ça que j'ai fait le café aussi, c'est essayer de faire en sorte de montrer aux gens que le lieu de la librairie, en fait, ne fait pas peur. Donc le café, en fait, c'est hyper pratique pour ça, parce que les gens arrivent, ils se prennent un café, tout le monde sait le faire en France, ça ne fait peur absolument personne. Et du coup, on peut attraper quelques personnes comme ça, un peu curieuses. Certaines repartiront en ayant juste pris un café, puis c'est pas grave. Mais d'autres auront peut-être l'oreille un peu tendue, m'entendront, moi ou ma collègue, parler d'un livre, conseiller quelqu'un d'autre. Et puis parfois, il suffit juste de ça, quoi, pour faire une petite étincelle. Et que peut-être une personne, au minimum, regarde déjà les livres, sans parler même d'achat à terme, hein, mais juste regarde. Et puis, il y a une capillarité, il y a une proximité, en fait, déjà. Et c'est la première chose, redonner une forme de proximité, dire vous voyez, vous pouvez être à côté, ça vous fait rien, du coup vous pouvez même vous en saisir, peut-être que ça pourra vous plaire. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas nous, quand il y a ce travail, ce premier travail de curiosité donc qui est fait, les gens qui arrivent en librairie, dont des personnes parfois qui ont envie de se remettre à la lecture, c'est le public avec lequel on fait, avec ma collègue, le plus attention, dans le sens où on a véritablement envie que ces personnes-là s'y retrouvent et pas qu'elles se disent « Ok, en fait, c'est vraiment pas pour moi. » Comme tu le disais, Nora, il y a vraiment un livre pour chaque personne et il n'y en a pas qu'un, en fait. Sauf que souvent, on voit des gens qui se font conseiller par la famille, enfin voilà, des gens qui font pas trop attention, en disant « Ouais, tu verras, ça c'est bien. » Et puis en fait, par rapport au caractère qu'on a, aux attentes qu'on peut avoir, par rapport aux difficultés, il faut pas aller trop vite. Il suffit de tomber sur une personne dyslexique. On va pas l'inonder sous un texte. Enfin voilà, moi, régulièrement, je crois que j'avais la discussion il y a quelques jours. C'était pour un cadeau pour un jeune homme dyslexique. Et je n'ai pas hésité à dire, mais en fait, vous pouvez aussi lui faire lire de la BD et de la BD muette, sans texte. C'est pas grave, c'est la lecture. Quand c'est bien fait, quand il y a un véritable geste qui est pensé, c'est tout aussi puissant et possiblement émancipateur, en fait. Voilà, c'est aussi ne pas rester cloisonné, ne pas mettre de supériorité dans les genres. Voilà.
Merci beaucoup, Andréa Lemaire. Donc, je le rappelle, tu es gérant de la librairie Café Galerie indépendante Myriagone. Alors, je vous invite chaleureusement à y aller faire un tour. C'est au 16 rue Bodigny à Angers. Elle est ouverte du mardi au samedi. Et il existe aussi le site internet librairiemyriagone.fr pour en savoir plus et pour contacter les libraires. Donc, quant à nous, on va poursuivre notre tour en musique avec Charlotte Adigéry et Bolis Poupoul, Ik Mouen.
Enfant ou parent, c'est pas si différent.
Petit coup d'éclat.
tu vois, bien ce que je vois.
Ton regard est mon miroir.
Aimer cocon ou aimer tout
sur le 103 FM. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Optimiste qui vous amène en vadrouille marine pour découvrir l'actualité locale. On a parlé de livres et alors on vous propose un moment de poésie en collaboration avec l'association Éclat qui nous a enregistré de poèmes en soutien au peuple ukrainien. Aujourd'hui, on écoute alors le poète ukrainien Taras Shevchenko.
Реве та стогне Дніпр широкий. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завіва, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в чорне море, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів.
Rugit, gémit le vaste Dniepr. Furieusement hurle le vent. Il courbe les hauts saules jusqu'à terre. Lève des vagues pareilles à des montagnes. Et la lune blême à ce moment. D'un nuage émerge ici ou là. Telle une barque dans une mer bleue sombre. Tantôt cabrée, tantôt plongeante. Les coqs n'ont pas encore chanté trois fois. Personne nulle part n'a fait de bruit. les chouettes dans le bois se sont répondues et le frêne de temps à autre a grincé.
Le poète qu'on vient d'entendre, c'est Taras Shevchenko, poète, peintre et humaniste, figure emblématique dans l'histoire de l'Ukraine. Il marque le réveil national du pays au XIXe siècle. Sa vie et son œuvre font de lui une véritable icône de la culture de l'Ukraine et de la diaspora ukrainienne au cours des XIXe et XXe siècles. Et la principale université ukrainienne porte son nom depuis 1939, l'Université nationale Taras Shevchenko de Kiev.
On a parlé donc de poésie avec l'association Éclat. On a aussi parlé de littérature et des livres dans cette émission. Mais si vous êtes plutôt fan des arts visuels, alors voilà que la capsule positive d'aujourd'hui est faite pour vous. Anne-Lise nous raconte les bienfaits psychologiques de l'art et on l'écoute tout de suite.
Bon matin, je suis Anne-Lise et avec Radio Campus, nous vous proposons comme chaque lundi un petit moment positif pour soi, pour se faire du bien. Après une journée la semaine dernière à traîner dans les expos à Paris, j'ai envie ce matin de vous parler des bienfaits de l'art.
Here we go!
Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste et professeur au Collège de France, est le premier à avoir décrypté les mécanismes neuronaux dans l'appréciation de la beauté. Je vous invite à aller voir son livre « Du vrai, du beau, du bien » aux éditions Odile Jacob. Que se passe-t-il donc dans notre tête? Au départ, notre cerveau perçoit une œuvre d'art comme n'importe quel objet, sauf que la surface de l'œuvre va refléter de la lumière. C'est là que le beau engendre quelque chose d'assez unique, constate Jean-Pierre Changeux. Il explique « Il y a la transformation par la rétine des radiations lumineuses en signaux électriques qui se propagent dans notre cerveau, du cortex visuel au cortex préfrontal, déclenchant une inondation de dopamine, l'hormone du plaisir. Les circuits des émotions s'activent, la contemplation d'une œuvre d'art fonctionne comme une récompense. Le beau est essentiel à l'être humain parce qu'il nous fait du bien. » D'après Platon, le premier bien est la santé, le deuxième, la beauté. Les études en neurosciences de ces dernières années ont confirmé les intuitions des philosophes de l'Antiquité. Regarder une œuvre d'art a en effet des effets directs sur notre cerveau. Pour Pierre Lemarquis, neurologue, tout se passe comme si, dit-il, l'art nous caressait le cerveau. Son livre « Portrait du cerveau en artiste » explique que la contemplation d'une œuvre d'art sollicite le cortex frontal, siège de la raison. Si celle-ci nous plaît, notre cerveau augmente la luminosité, le contraste et les couleurs pour en profiter pleinement. Très vite, nous réveillons nos neurones miroirs, c'est-à-dire nos neurones de l'empathie. Plus étonnant encore, le gyrus fusiforme bilatéral s'active aussi. C'est la zone qui est impliquée dans la reconnaissance des visages. On voit un beau tableau, comme on voit une personne que l'on aime. Tout cela se ressent bien sûr sur notre santé. Une enquête de chercheurs de l'University College de Londres, publiée par le British Journal of Psychiatry, conclut que les visites culturelles réduisent les risques de souffrir de dépression au cours de la vie. 32% de risque en moins de tomber en dépression en devenant senior quand on se rend au cinéma, au théâtre ou au musée plusieurs fois par an. Le chiffre grimpe à 48% de risque en moins pour ceux qui s'y rendent une fois par mois ou plus. L'art est une expérience qui agit à plusieurs niveaux. En plus de stimuler les émotions et la motricité, le contact avec la beauté, avec l'ouverture du monde qu'elle offre, restaure la confiance en soi. Spécialiste des troubles de l'alimentation à l'hôpital Douglas de Montréal, Howard Steiger a mené en 2015 une expérience afin d'évaluer l'impact d'une visite au musée des Beaux-Arts de Montréal chez des personnes souffrant d'anorexie ou de boulimie à travers un parcours spécifique parmi les œuvres, ponctué d'une pause repas et d'un atelier créatif. Les résultats de l'expérience ont été publiés dans le journal The Arts of Psychotherapy. Il conclut que si la visite n'a pas eu d'effet notable sur les symptômes de troubles alimentaires, elle a réduit le niveau d'anxiété des participants. D'après les recherches, les connexions symboliques à la nature semblent avoir un effet presque aussi important sur les personnes qu'un lien direct avec elles. C'est le cas par exemple avec des fresques, des peintures, des photographies de nature ou de paysages. Et le besoin des humains à entrer en contact avec la nature peut avoir un réel impact. On l'a déjà évoqué ensemble ici plusieurs reprises. Donc, avec une œuvre d'art qui représente la nature, eh bien cela fonctionne aussi. Le lien visuel avec la nature peut être proposé lorsque l'on fait entrer l'art dans les espaces de travail. L'objectif ? Fournir un environnement qui aide à détourner son attention afin de reposer ses muscles, d'atténuer la fatigue cognitive et donc de réduire le stress. Comparativement à ceux qui travaillent dans des environnements dépourvus de connexion à la nature, on le sait aujourd'hui, j'en ai déjà parlé avec vous, eh bien les employés au contact visuel avec la nature notent une hausse de 15% de leur sentiment de bien-être, sont 6% plus productifs et sont 15% plus créatifs. Alors après avoir mis des plantes dans votre bureau comme on l'a aussi vu ensemble, dans votre maison, pourquoi pas y ajouter une peinture de Van Gogh ou bien du douanier Rousseau ? N'en jetez plus, la cour est pleine. Mes arguments ce matin posent l'art comme un véritable activateur de bien-être. Et pas besoin d'être spécialiste ou d'avoir fait 3 années aux Beaux-Arts, vraiment. Un jour, j'ai dit à un ami amateur de bon vin avec qui je me sentais très mal à l'aise. Tu sais, j'y connais rien en vin, je suis complètement nulle. En fait, je ne sais pas ce qu'est un bon vin. Cet ami m'a répondu ceci. Anne-Lise, on s'en fout. Quand tu bois un vin, demande-toi si tu aimes ou si t'aimes pas. Le bon vin, c'est celui qui te donne du plaisir. Eh ben pour l'art, c'est pareil. Peu importe que vous connaissiez ou non l'artiste, le courant, vous l'avez compris, ici l'essentiel est de vous faire plaisir. D'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué comment certaines œuvres vous appellent alors qu'elles font l'effet d'une porte de frigo à votre ami venu avec vous dans cette expo ? Les émotions que nous procure l'art nous sont personnelles. Je vous invite à les explorer, à les vivre, à vous faire du bien avec. Allez, cette semaine, on sort et on va découvrir l'expo près de chez nous. Je vous souhaite une belle semaine.
Tous les animaux et les candélabres, le violon coq et le bouc-bouquet sont du mariage. L'ange à la fenêtre où sèche le linge, derrière la vitre installe un pays dans le paysage, dans le paysage. Mon peintre amer, odeur d'amande. Les danseurs ont bu le grand soleil rouge qui se fera lune avant bien longtemps sur les marécages.
Et avec ces quelques minutes de bonnes énergies, on arrive à la fin de cette première virée de l'optimiste pour cette semaine. Merci à Carla qui était à la cabine technique de notre voilier pour cette émission. Et évidemment, merci à vous pour avoir embarqué avec nous. Si cette émission vous a donné plein d'idées, alors sachez que vous aussi, vous pouvez créer votre émission sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers. Vous pouvez devenir bénévole et vous former à la rédaction, à la technique et au montage. Il suffit de nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à coordination@radiocampusangers.com. Pour ce soir, restez sur le 103FM pour booster votre lundi soir avec Mélodub, une immersion dans l'univers du dub de 21h à 22h, et ensuite Bamboo Station, toutes les nouveautés du reggae de 22h30 à minuit. Passez une très très belle soirée sur Radio Campus Angers.
Vous pouvez écouter l'émission sur le www.radiocampusangers.com.